La technologie, au même titre que de nombreuses autres activités, tend à l'évitement des risques par l'investisseur. L'incertitude est éliminée dans la mesure du possible. Les investissements de capitaux obéissent particulièrement à cette règle, car les gens préfèrent généralement le prévisible à l'imprévisible. Rares sont ceux qui reconnaissent le caractère destructif du processus par les limites qu'il impose à la diversité et par la vulnérabilité où il plonge des populations entières face à la manière brutale dont notre univers est parfois capable de jeter les dés. Réflexion sur les Ixiens, archives du Bene Gesserit. Le lendemain de son épreuve dans le désert, Shiana se réveilla dans l'enceinte sacerdotale pour voir son lit entouré de gens en robe blanche, des prêtres et des prêtresses. « Elle ne dort plus, » dit une prêtresse. La peur assaillit Shiana. Elle remonta les couvertures jusqu'à son menton tout en regardant les visages qui l'épiaient. Allait-il l'abandonner encore dans le désert? Elle avait dormi, épuisée, d'un sommeil profond et réparateur dans le lit le plus moelleux et les draps les plus blancs qu'elle eût connus de toutes ses 8 années de vie. Mais elle savait que tout ce que faisaient les prêtres pouvait être à double face. On ne pouvait leur faire confiance. « Avez-vous bien dormi ?» C'était la prêtresse qui avait parlé tout à l'heure. Plus âgée que les autres, elle avait les cheveux gris et le visage entouré d'un capuchon blanc gancé de pourpre. Ses yeux étaient légèrement vitreux mais alertes, d'un bleu très pâle. Son nez, court et retroussé, dominait une bouche étroite et un menton saillant. « Vous ne voulez pas nous parler ?» insista la vieille prêtresse. « Je m'appelle Kanya. Je suis votre aide de nuit. Rappelez-vous, je vous ai aidé à vous mettre au lit. » Le ton de sa voix au moins était rassurant. Shiana se redressa pour mieux regarder tous ces gens. Ils avaient peur. Son nez d'enfant du désert n'avait aucun mal à reconnaître les phéromones. Pour elle, c'était une simple constatation. Cette odeur-là égale la peur.
« Vous avez voulu me faire du mal ?» dit-elle à haute voix. « Pourquoi avez-vous fait ça ?»
Ceux qui l'entouraient échangèrent des regards consternés. La terreur de Shiana se dissipa d'un seul coup. Elle avait reconnu le nouvel ordre des choses. L'épreuve de la veille dans le désert marquait un nouveau changement. Elle se rappela l'attitude servile de la vieille femme.
Kanya ?
Elle était pour ainsi dire à ses pieds depuis hier soir. Plus tard, Shiana apprendrait que toute personne qui a survécu à l'acceptation de la mort acquiert un nouvel équilibre émotionnel. La peur est une condition transitoire. C'était sa nouvelle situation qui devenait intéressante. La voix de Kanya était tremblante quand elle répondit « Soyez assurée, fille de Dieu, que nos intentions n'étaient nullement malveillantes.
Je m'appelle Shiana. Qui sont tous les autres ?»
Elle lissa posément les couvertures de son lit. C'était la politesse du désert qui lui avait fait dire son nom. Kanya s'était déjà présentée. Ils se retireront si vous ne souhaitez pas leur présence, Shiana. Et Kanya ajouta en désignant une autre femme au visage rubicon qui se tenait sur sa gauche et qui portait un costume semblable au sien.
Excepté Al-Hossa, naturellement. C'est votre aide de jour.
Al-Hossa fit une courbette pour marquer les présentations. Shiana tourna la tête vers son visage bouffi de cellulite et ses traits épais nimbés d'un casque flou de cheveux blonds. Puis elle porta brusquement son attention sur les hommes du groupe, qui l'observaient derrière leurs paupières à demi baissées, avec pour certains un air de suspicion tremblante. Il émanait d'eux une forte odeur de peur. Des prêtres.
« Renvoyez-les »
dit-elle en agitant la main dans leur direction.
« Ils sont haram !»
C'était un mot du peuple, le terme le plus vil pour désigner tout ce qu'il y avait de plus maléfique. Les prêtres choqués eurent un mouvement de recul.
« Laissez-nous !» ordonna Kanya.
Il était impossible de se tromper sur l'expression de triomphe haineux qui avait traversé son visage. Kanya n'avait pas été rangée dans la même catégorie que ces prêtres que l'on qualifiait d'haram. Ils avaient dû commettre de hideux méfaits pour que Dieu envoie une enfant prêtresse pour les châtier. Kanya n'avait aucun mal à les en croire capables. Il l'avait rarement traitée comme elle en était digne. Tels des chiens battus, les prêtres se retirèrent à reculons de la chambre de Shiana sans cesser de faire des courbettes. Parmi eux se trouvait l'historien locuteur Dromind, un homme au visage sombre et à l'esprit crochu qui happait les idées comme le bec d'un vautour arrachant un morceau de charogne. Dès que la porte se fut refermée derrière eux, Dromind apprit à ses compagnons tremblants que Shiana était une forme moderne de l'ancien nom Siona.
« Vous savez tous la place occupée par Siona dans les historiques, » leur dit-il. « Elle a servi Shai Hulud dans sa métamorphose de simple humain en dieu fractionné. »
Styros, un vieux prêtre ridé aux lèvres parcheminées et aux yeux clairs et luisants, le considéra avec étonnement.
« C'est extrêmement curieux, » dit-il. « L'histoire orale prétend qu'elle a joué un rôle primordial dans sa transformation d'unique en entité omnique. » Shiana, vous croyez que...
N'oublions pas la traduction des propres paroles sacrées de Dieu par Adi Benotto, interrompit un autre prêtre. Shai Hulud y cite fréquemment Siona.
Pas toujours pour la flatter, leur rappela Styros. N'oubliez pas son nom complet. Siona ibn Fouad al-Seyefa Atréide.
Atréide? Murmura un autre prêtre.
« Nous devons la surveiller avec le plus grand soin, » fit Dromind.
Un jeune acolyte messager fit irruption dans le couloir où se trouvait le groupe et chercha Styros.
« Vous devez évacuer immédiatement ces lieux, » lui dit-il.
« Quoi ?»
fit la voix indignée d'un prêtre. « Elle va s'installer dans les quartiers du grand prêtre, » poursuivit le messager.
« Sur ordre de qui ?» demanda Styros.
« C'est le grand prêtre Tuek en personne qui a donné ses instructions. » « Ils ont tout écouté, » ajouta-t-il avec un geste vague dans la direction d'où il venait.
Tous comprirent aussitôt. Les salles pouvaient être aménagées de telle sorte que les voix se propagent d'un endroit à un autre. Il y avait toujours quelqu'un pour écouter ce que l'on disait.
« Qu'ont-ils entendu ?» demanda Styros d'une voix qui tremblait.
Elle a demandé si la chambre qu'elle occupait était ce qu'il y avait de mieux. « Elle va déménager et il ne faut pas qu'elle vous voie ici. »
« Mais que devons-nous faire ?» demanda Styros.
« Étudions-la, » fit Dromind.
Ils quittèrent le couloir immédiatement. À partir de ce moment-là, ils se mirent en devoir de surveiller Shiana. L'impulsion qui venait d'être donnée devait marquer tout le cours de leur existence ultérieure. Les habitudes mises en place autour de Shiana causèrent des changements dont les retentissements gagnèrent les sphères les plus éloignées de l'influence du dieu fractionné. Et deux mots avaient déclenché ces changements. Étudions-la. Comme elle était naïve, curieusement naïve, se disaient les prêtres. Mais elle savait lire. Et elle manifestait un intérêt intense pour les livres sacrés qu'elle avait découverts dans les quartiers de Tuek, devenus ses propres quartiers. Du plus haut de l'échelle jusqu'au plus bas, tout n'était que propitiation. Tuek était allé loger dans les appartements de son assistant principal, et le processus s'était répercuté vers le bas. Des fabricateurs avaient pris les mesures de Shiana et lui avaient confectionné un disti de qualité, ainsi qu'une série de robes d'un blanc et or sacerdotal avec des ornements de pourpre. Les gens commençaient à éviter l'historien locuteur Dromind, qui avait trop tendance à mettre le grappin sur le premier venu pour lui exposer l'histoire de l'autre Siona, comme si cela en disait long sur celle qui portait à présent son nom modifié.
Siona était la compagne de l'Auguste Duncan Idaho, répétait-il à qui voulait l'entendre. Vous trouverez leurs descendants partout.
Ah oui, vraiment? Excusez-moi, c'est très intéressant, mais une affaire urgente m'appelle.
Au début, Tuek s'était montré plus patient avec Dromind. L'histoire avait retenu son intérêt et les implications étaient claires.
Dieu nous a envoyé une nouvelle Siona, disait Tuek.
« Ce n'est pas compliqué. » Dromind avait fait de nouvelles recherches dans les archives et il était revenu à la charge.
« Il nous faut considérer à présent les documents de Darès Balat sous un jour entièrement nouveau.
Ne jugez-vous pas utile de procéder à de nouveaux tests sur cet enfant ?
Dromind avait pris le grand prêtre à part juste après le déjeuner. Les restes du repas de Tuek encombraient encore la petite table sur la terrasse. Par la fenêtre ouverte, ils entendaient les bruits de l'appartement de Siona juste au-dessus d'eux. Tuek mit un doigt sur ses lèvres et parla à voix basse.
L'enfant sacré va de son propre gré dans le désert. Il se rendit devant une grande carte murale et désigna un secteur au sud-ouest de Kin. Apparemment, voici la zone qui l'intéresse, ou, disons, qui l'attire.
J'ai appris qu'elle avait très souvent recours à des dictionnaires, murmura Dromind. Je suis sûr que si elle, c'est pour nous mettre à l'épreuve. Ne vous y trompez pas.
Mais, Seigneur Tuek, elle pose les questions les plus puériles à Kanya et à Al-Hossa.
Doutez-vous de mon jugement, Dromind ?
Un peu tard, l'historien locuteur se rendit compte qu'il avait outrepassé les limites de la prudence. Il serra les lèvres, mais son expression disait que les mots ne demandaient qu'à sortir.
Dieu l'a envoyé pour extirper le mal qui a pu se glisser dans les rangs de ses serviteurs, dit Tuek. Allez, priez en vous demandant si ce mal ne se serait pas également logé en vous.
Quand Dromind fut parti, Tuek fit appeler l'un de ses aides de confiance.
Où se trouve l'enfant sacré ?
Elle est sortie dans le désert, Seigneur, pour communier avec son père.
En direction du sud-ouest ?
Oui, Seigneur.
Dromind doit être conduit à l'est et abandonné au milieu des sables. Que l'on dispose plusieurs marteleurs autour de lui afin qu'il ne revienne jamais.
Dromind, Seigneur ?
Obéissez.
Même après le transfert de Dromind dans la gueule de Dieu, les prêtres avaient continué à suivre sa première injonction. Ils étudiaient Shiana. Shiana étudiait aussi. Peu à peu, de manière si graduelle qu'elle était incapable de dire à quel moment la transition avait eu lieu, elle avait pris conscience du pouvoir qu'elle exerçait sur son entourage. Au début, c'était un jeu, celui de l'enfant roi au devant duquel les adultes se précipitent pour satisfaire le moindre de ses caprices. Mais il lui apparut bientôt qu'elle ne demandait jamais trop. Voulait-elle sur sa table un fruit très rare ? Le fruit lui était servi sur un plateau d'argent. Apercevait-elle de loin dans une rue grouillante un enfant dont la tête lui plaisait et qu'elle souhaitait avoir comme compagnon de jeu ? Immédiatement, cet enfant lui était amené dans ses appartements du temple. Une fois sa terreur et sa stupeur passées, l'enfant était parfois capable de partager les jeux de Shiana que les prêtres et les prêtresses observaient avec gravité. Innocente course à cloche-pied le long des jardins suspendus, chuchotements et rires pouffants, tout était soumis à des analyses intenses. Shiana trouvait pesante la terreur de ses enfants, mais elle préférait changer chaque fois de partenaire pour apprendre de nouveaux jeux. Les prêtres ne réussissaient pas à s'accorder sur l'innocence de ces rencontres. Les jeunes partenaires de Shiana furent soumis à d'impressionnants interrogatoires jusqu'à ce qu'elles s'en aperçoivent et entrent dans une colère folle à l'égard des responsables.
Inévitablement, les rumeurs concernant Shiana se propagèrent sur tout Rakis et gagnèrent les planètes avoisinantes. Le Bene Gesserit fut bientôt en possession de nombreux rapports. Les années se passèrent dans une sorte de routine sublimement autocratique à combler la curiosité de Shiana. Cette curiosité ne semblait pas avoir de limite. Aucun de ceux qui entouraient Shiana ne s'était avisé qu'il s'agissait là d'une forme d'éducation. Shiana faisait celle des prêtres et il faisait la sienne. Le Bene Gesserit s'était tout de suite aperçu de cet aspect de l'existence de Shiana et suivait les choses avec attention.
« Elle est en bonne main, » disait Aratza. « Laissons-la où elle se trouve jusqu'à ce qu'elle soit prête, mais veillez à maintenir une force d'intervention sous alerte constante et à m'informer régulièrement. »
Jamais Shiana ne révéla ses véritables origines ni le sort qu'avait fait subir Shaitan à sa famille et à tous ses voisins. Il s'agissait d'une affaire privée entre Shaitan et elle. Elle considérait que son silence représentait son paiement pour avoir été épargnée. Certaines choses s'estompèrent dans la vie de Shiana.
Elle fit de moins en moins d'incursions dans le désert. Sa curiosité demeurait toujours vive, mais il devenait évident que ce n'était pas au milieu des sables qu'elle trouverait l'explication du comportement de Shaitan à son égard. Et bien qu'elle connût l'existence des ambassades représentant les autres puissances sur Rakis, les espions du Bene Gesserit implantés dans son entourage faisaient en sorte qu'elle ne manifeste pas trop d'intérêt pour l'ordre. Leur réponse était calculée pour détourner l'attention de Shiana à mesure qu'elle se formait. Le message que fit parvenir Taratsa à ses observateurs sur Rakis était net et sans équivoque.
Les décennies de préparation deviennent les années de finition. Nous n'agirons que le moment venu.
Il ne fait plus le moindre doute que l'enfant que nous attendions est bien celui-là.